Good, c'est parti, ça roule. Merci beaucoup d'être là.
Ben, merci à vous de m'avoir invité.
Ouais, ça fait plaisir. Est-ce qu'en ce moment, tu disais que ça reprenait avant ONDE, tu disais que ça reprenait tranquillement la recherche. Y a-t-il une grosse pause pendant la COVID?
Oh oui, ça a été complètement arrêté là, à Montréal dans la première vague. Là, tout arrêté, là, sauf certains labos là, qui travaillaient plus COVID, qui eux ont continué, mais sinon les autres, ils ont travaillé. Nous, on est arrêté jusqu'en mars à juillet, août.
Okay.
Puis après ça, ça a repris graduellement. Donc, au début, il y avait moins de monde dans le labo, puis plus en plus, on pouvait avoir plus de gens dans les labos, mais on continue encore à suivre là, les distanciations, ouais. Le lavage de main, etc. Là.
Est-ce que ça rend ça beaucoup plus compliqué?
Bien, plus d'organisation, parce que là, des fois, on ne peut pas être plus qu'un ou deux dans un espace de travail, donc il faut faire des chiffres puis s'assurer que la distanciation est
respectée. Ouais.
Mm-hmm. Fait qu'au labo, là, vous, c'est de la recherche sur la maladie d'Alzheimer surtout.
Exact, oui.
Puis de la comprendre, puis d'essayer justement de la prévenir, j'imagine. Puis avant qu'on plonge là-dedans, j'aimerais savoir c'est quoi en fait ton parcours académique là, pour se rendre jusque-là, ouais, mettons, ouais, là, si on pouvait faire ça.
Ouais. Donc, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Montréal.
En puis, quoi que t'es le...
C'était plus neurosciences. Mm-hmm. Puis ensuite, je suis allé faire mon doc chez Rémi Quirion, que vous avez reçu ici à l'émission.
Ouais. Scientifique en chef du Québec.
Exactement, exactement. Il n'y a plus de labo, là. Il est vraiment scientifique en chef.
Fait que c'était à son laboratoire à l'époque? Ou
Exact. Okay. J'étais étudiant au doctorat. Donc, c'était à l'hôpital Douglas, qui est associé à l'Université McGill. Donc, ça, j'ai fait ça jusqu'en 2007. Ensuite, j'ai fait un postdoc en co-supervision en France, à Lille. Dans le laboratoire de Luc Buet, aussi en co-supervision avec un labo en Belgique, Bart de Strooper, qui lui... donc ça aussi, c'était maladie d'Alzheimer, neurosciences. Mm-hmm. Ensuite, j'ai fait un deuxième postdoc à l'Université Yale, aux États-Unis, jusqu'en 2014, chez le Dr Lombroso. Puis ensuite, ben, j'ai eu
c'était-tu un poste... C'était-tu encore sur le même sujet, neurosciences, maladie d'Alzheimer?
Neurosciences, puis chez Lombroso, j'ai plus travaillé sur les déficits de mémoire qui surviennent avec l'âge, un peu moins Alzheimer, mais ça se connecte parce que bon, c'est le principal symptôme, le plus précoce. Puis donc, j'ai resté là jusqu'en 2014. Puis après ça, j'ai un poste à Sacré-Cœur qui est affilié à l'Université de Montréal au département de pharmacologie et physiologie.
En recherche, là.
En recherche. C'est vraiment de la recherche fondamentale. Nous, on est comme en front line, là, donc pour trouver les causes de la maladie d'Alzheimer. C'est quoi qui se passe dans le cerveau, c'est quoi que les mutations, les protéines qui sont affectées, puis pour trouver des médicaments. Parce que pour l'instant, pourquoi on n'a pas de bons médicaments qui guérit la maladie d'Alzheimer? C'est parce qu'on ne connaît pas encore la cause de la maladie d'Alzheimer.
Mm-hmm. Fait que ça a toujours été ça, le sujet qui t'intéressait depuis pratiquement le début, finalement.
Oui. Ben, j'ai commencé, c'était plus la mémoire. Ça m'a tout le temps fasciné. Le cerveau, en premier, je trouve que c'est un organe qui est super complexe, super intéressant, intriguant. Puis après ça, c'était la mémoire qui m'intéressait. Parce que notre mémoire est vraiment associée à qui on est. C'est notre personnalité tourne autour de la mémoire. Donc, et puis on le voit là, chez Personnes Alzheimer, on finit par plus trop savoir. Il y a un grand changement de
plus
personnalité.
Plus connaître la personne en tant que telle. Ouais.
Parce que sa mémoire flanche. Donc, du coup, ça change beaucoup sa personnalité. Donc, ça, c'est ce qui m'a intéressé en premier. Comprendre comment ça se passe. Comment le cerveau est capable d'engranger cette information-là sur... une courte, puis surtout une longue période de temps. Puis après ça, ben c'est venu un peu naturellement, parce que comme la maladie d'Alzheimer, c'est associé au déficit de mémoire, mais c'est comprendre la pathologie principale qui cause des pertes de mémoire. Puis là, j'ai continué plus là-dessus. Puis là, maintenant, dans mon laboratoire, ben, on fait un peu des deux.
Mm-hmm. OK. Puis la mémoire, en fait, d'un point de vue du cerveau, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, c'est...
Oui, bon, mais c'est...
c'est très large comme question, mais...
Ça en est une excellente, parce que, tu sais, on peut concevoir dans l'abstrait qu'on a une mémoire, tu sais.
Ouais.
Sauf que dans le concret, c'est quoi? Comment qu'on emmagasine des données comme ça? Puis pourquoi est-ce que le cerveau... Est-ce que le cerveau est le seul organe qui est capable... qui a une mémoire, tu sais, au final?
Ouais, ben surtout le cerveau. Puis moi, je m'intéresse surtout au cerveau. Donc, ouais. Comment ça s'inscrit dans le cerveau? C'est y a différentes régions du cerveau. Puis chaque région du cerveau va avoir sa spécificité, sa fonction.
Ouais.
Donc, dans le cerveau, ben il y a des régions qui sont vraiment spécifiques à la mémoire. Une des régions les plus étudiées qu'on connaît le mieux, c'est l'hippocampe. Donc, ça s'appelle de même parce que le gars qui l'a décrit, ben il trouvait que ça avait une forme, une shape d'hippocampe. Puis
c'est où dans le cerveau, ça, l'hippocampe?
Donc, on a quatre lobes, donc le lobe frontal, pariétal, occipital, temporal. Donc, temporal, c'est sur le côté.
Okay.
Donc, c'est comme à l'intérieur du lobe temporal. Puis, ça a une forme, c'est ça, un peu banane, hippocampe.
Pourrait ressembler à un hippocampe.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, exact. Donc, donc là, il y a beaucoup de la mémoire qui se forme là. Donc, quand on reçoit une nouvelle information, ben, après ça, c'est de la communication qui se passe entre les neurones. Comment, quand on reçoit une nouvelle information, il y a des nouvelles protéines qui peuvent se créer pour garder la mémoire à long terme. Donc, c'est garder un certain temps dans l'hippocampe. Puis ensuite, par exemple, avec le sommeil, mais souvent, le cerveau va rejouer ce qui s'est fait dans la journée.
On parlait avec Roger Legault dans le Rapid Eye Movement, la zone, c'est là que ça consolide ce qu'on...
Exact, la consolidation. La consolidation, c'est quoi? C'est le transfert d'informations qu'il y a dans l'hippocampe, puis qui va aller dans d'autres zones plus corticales. Puis il faut le jouer un peu en boucle pour laisser le temps aux neurones d'assimiler l'information. Puis après ça, quand on va en avoir de besoin, bien, cette information-là qui est conservée dans le cerveau va revenir dans l'hippocampe, puis on va pouvoir se souvenir des mémoires, des souvenirs qu'on a eus, que récents comme éloignés dans le temps.
Puis est-ce que le fait que quand les mémoires rejouent dans notre cerveau, ça les aide à être consolidés, est-ce que c'est le même principe aussi, même quand on est éveillé? Au sens où si, admettons, il se passe quelque chose où j'essaie, admettons, de retenir un numéro, puis que si j'y pense plus, je l'oublie, c'est sûr, mais si je me le répète 5 fois, je l'oublierai plus jamais. T'sais.
Exactement. Donc, y a plus qu'on le répète, puis si on veut apprendre un cours, si on veut l'apprendre bien, il faut le répéter. Souvent, 3 fois, c'est bon. Puis c'est pas juste le répéter comme ça, mais il faut... plus qu'on est motivé à apprendre sur la matière, plus que ça va rentrer, puis parce qu'il y a un intérêt qui se crée, puis l'information s'enregistre mieux. Puis quand on dit consolidation, c'est quoi, en fait? C'est que c'est pas plus que tu as de mémoire puis d'information, plus que tu as de neurones. Le nombre de neurones est défini, bouge pas dans le temps, mais il va y avoir des nouvelles connexions qui vont se faire entre les neurones. Mm-hmm. Puis ils vont venir consolider le chemin des neurones qui ont connecté entre eux, puis qui c'est ça qui va faire la base de notre mémoire qui se consolide dans le cerveau.
Puis j'imagine que quand t'es plusieurs étudiants au postdoc qui travaillent sur la mémoire, le par cœur, c'est pas un problème. Là. Vous avez des techniques pour retenir les affaires.
Ouais, c'est ça. Il y a différentes techniques qu'on peut avoir là pour retenir mieux l'information. Donc, comme je disais, répéter les choses 3 fois. Donc, d'une fois, c'est faire une première lecture rapide, puis ensuite attendre un petit peu. Des fois, une bonne nuit de sommeil, ça l'aide à consolider. Puis le lendemain, on revient là-dessus. On fait une lecture un peu plus attentive. Puis après ça, un autre jour, on se le répète, puis ça l'aide beaucoup à retenir l'information. Après ça, il y a des trucs mnémotechniques qui existent pour réussir à retenir mieux les choses. Donc, juste un exemple de truc. Donc, si vous voulez retenir 20 mots qui ont aucun rapport entre eux. Mm-hmm. Si vous faites des liens entre ces mots-là, si vous construisez une histoire...
Une genre d'histoire,
ouais. Même si c'est une histoire complètement à cadabrante qui se tient pas debout, c'est pas grave. Du moment qu'on fait un lien entre ces mots-là, il y a une rétention d'information qui se fait beaucoup mieux. Ça a été montré.
Puis est-ce que ça s'entraîne? Parce que moi, je sais pas si tu te souviens d'Étienne Lavallée, qui était un gars avec qui on faisait de la natation, que lui, quand il y avait des passes, il trippait sur une affaire, puis il devenait, là, tu sais, il se crinquait là-dessus, puis à amener à amener son objectif, c'était être capable de travailler sa mémoire. Puis il commençait comme ça, mettons, il se faisait une liste d'épicerie pour aller à l'épicerie. Puis là, il commençait à se raconter une histoire avec la liste, mais il partait quand même avec la liste. Puis là, à un moment donné, il laissait la liste chez eux.
Ouais,
puis là,
ouais,
il partait
ouais.
avec l'histoire. Puis là, à un moment donné, il n'avait plus besoin d'histoire, puis il gardait la liste au complet. Puis lui, il voulait l'appliquer éventuellement à être capable de faire des tours de magie, fait qu'à compter des cartes, puis à voir les cartes, puis à s'en rappeler, tu sais. Mais c'est-tu quelque chose qui se développe?
Oui, oui, tout à fait. Tu sais, ceux qui ont des... Il y a des concours, là, de personnes là, qui mémorisent les choses, puis là, qui peuvent dire... Pi, avec tous ouais. les chiffres, un ouais. à côté de l'autre. Donc, il y a différents trucs qui existent. Puis, plus qu'on on les pratique, puis plus qu'on devient bon, puis plus qu'on c'est facile pour nous de retenir les choses.
J'avais fait plusieurs mois des tests parce que je soupçonnais peut-être être atteint du TDAH. Là.
OK.
Puis, fait que j'avais fait des. Un examen là, chez la neuropsie, justement, là, avec toutes sortes de tests, finalement, là, pour un peu essayer de comprendre comment mon cerveau fonctionne. Puis il y en avait un, justement, qui c'était juste à me bombarder plein de mots. Puis après ça, il fallait que j'en répète le plus possible quand on avait dit. Là, puis on le faisait plusieurs fois, puis à chaque fois, j'en avais de plus en plus. Puis elle me le disait pas, mais en fait, il y avait, mettons, quatre grandes catégories de mots. T'sais. Mettons, tu avais des fruits, les ouais. meubles, les ouais. moyens de transport, puis une autre affaire. Puis là, mais elle me disait, tu sais, n'importe comment, sans me dire qu'il y avait des catégories. Puis au moment que j'ai catché qu'il y avait ces grandes catégories-là, puis que j'organisais ça dans ma tête,
exact.
Là, ma mémoire était 100 fois meilleure que quand il n'y avait aucune logique, tu sais.
Exactement, exactement. Donc, si on peut catégoriser, ça aussi, ça aide beaucoup, parce que c'est un peu la même idée que l'histoire, c'est qu'on les met ensemble, puis on va dire, OK, bon, là, je vais aller dans la catégorie, je sais pas, fruits, puis ouais. tu vas attraper les 3-4 fruits qui ont été nommés, puis... Puis souvent dans ces tests-là, ça s'appelle l'interférence. Donc, on donne un mot, puis là, on le fait dans les tests Alzheimer là, pour tester, voir la mémoire de la personne. Puis là, on dit, bon, on va revenir avec ça un peu plus tard. Puis là, on attend un certain temps. Puis pendant ce temps-là, il y a d'autres questions qui se posent. Donc, il y a cette interférence-là de nouvelles informations entre la fois où il a entendu le mot la première fois et le rappel. Et ça complique. Alors que si la personne entend le mot, puis pendant plus que c'est long, plus que c'est dur à retenir,
ouais.
puis s'il n'y a rien qui se dit, ça va être plus facile que s'il y a plein de choses qui se disent entre les deux fois.
Ouais. Mm. Ça me fait penser à un moment donné aussi, j'étais dans une passe que je voulais avoir des base en espagnol parce que j'en avais absolument aucune. Puis là, j'avais...
Puis on avait une semaine dans un tout inclus.
Puis c'était important que je sache savoir demander où sont les toilettes. Mais j'avais comme téléchargé, c'était comme une méthode, ça s'appelle la Pimsleur méthode. Puis c'était comme un monsieur qui avait comme développé cette méthode d'apprentissage-là. Puis ça ressemblait exactement à ça. En fait, c'est, mettons, au début, il commençait par vraiment la base. Là, mettons... bonjour, hola, mettons, tu sais. Puis là, ça faisait répéter, puis c'est toujours audio, puis tu répétais, tu sais, à voix haute.
Mm-hmm.
Puis, fait que, mettons, tu le répétais 2-3 fois, puis après ça, tu passais à un autre mot ou à une autre phrase. Après ça, tu revenais au premier, puis tu faisais répéter, puis après ça, tu revenais tout le temps au premier, mais c'était toujours, tu sais, les notions que tu apprenais, c'est toujours de plus en plus espacé, tu sais. Puis là, t'en avais des nouvelles, puis après ça, hop, il te ramenait un que t'avais deux leçons d'avant, qu'au début, tu répétais beaucoup, beaucoup, mais à un moment donné, puis je trouvais ça vraiment bon. Puis tu sais, rapidement, avec cette méthode-là, j'ai tout oublié, mais tu sais, à l'époque...
ça marche bien.
c'est ça, c'est la preuve, c'est un succès. Là.
Mais à l'époque, je veux dire, on parle de v'là quand même 10 ans, tu sais, mettons, mais... je trouvais vraiment, puis j'avais vraiment l'impression que comme mon cerveau, les connexions qui se faisaient, c'était vraiment efficace, là, tu sais. De répéter, après ça, mettre des nouvelles informations, répéter l'autre d'avant, nouvelles informations, puis tout le temps revenant en arrière, mais en espaçant de plus en plus. Puis, ouais, j'avais ouais, vraiment comme rapidement eu quand même des papiers. Je pouvais aller à la toilette, là, tu sais.
La répétition, c'est pas mal ouais. ce qu'il y a de mieux, là, en termes de trucs. Après ça, il y en a d'autres, comme, tu sais, s'il y a une liste de mots, ça peut être aussi retenir par ceux qui commencent par la même première lettre. Donc, les mettre ensemble, tu sais, faire des catégories comme on parlait. Puis après, il y a l'environnement aussi. Quelqu'un qui est stressé, mais là, vous avez j'en avais parlé un petit peu avec Sonia Lupin qui, ouais, qui est venue voir, ça joue sur la mémoire, ça joue sur l'hippocampe. Donc, c'est ça qui fait que des personnes qui sont trop stressées, ben, des fois, ils peuvent bloquer, geler un examen parce qu'ils ont de la misère à retenir, ouais, l'information.
Ouais, trop stressé, puis pas assez dormir. Là, ça rejoint ces deux podcasts-là qu'on a fait. Se détendre et bien dormir, il trouve un meilleur truc que d'étudier toute la nuit pour son examen.
C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire qui est, tu sais, puis c'est qu'on a, mettons, instinctivement, hey, j'ai pas dormi de la nuit, là, j'ai mon examen demain, mais c'est la pire, tu sais, je suis stressé, j'ai pas dormi, c'est la pire chose pour la mémoire, dans le fond, là, tu sais.
Ouais, ben, tu sais, il y a le temps aussi, donc, tu sais, il y a une raison aussi d'étudier pas trop loin, là, parce que si tu étudies tout ça 3 mois à l'avance, ça va être loin, puis il y a moins de chances que tu t'en souviennes. Mais définitivement, pas dormir, puis étudier toute la nuit juste avant ton examen, puis juste une fois, sans répéter, puis de la matière que t'aimes pas. Mais là, toutes les conditions sont réunies pour que tu t'en souviennes pas. Puis que...
Mais le meilleur truc, finalement, pour quelqu'un qui veut réussir son examen, c'est... se prendre plusieurs jours à l'avance et d'en faire un petit peu à chaque jour.
C'est plate à dire.
C'est ça. Aussi plate, c'est à faire dire, c'est ça qu'il faut faire.
C'est ça qui marche.
Se planifier d'avance.
Ouais,
comment est-ce que le cerveau fonctionne? Parce que, mettons, il y a des souvenirs auxquels je repense jamais, qui sont juste stockés dans ma tête, on dirait, puis qu'à un moment donné, mettons, Toum va me parler de quelqu'un qui était au secondaire avec nous autres, puis j'y ai pas repensé depuis la dernière fois que j'ai vu cette personne-là, mais je m'en rappelle encore. Ouais. Tandis qu'il y a d'autres affaires que j'oublie. Mettons, des fois, j'oublie le nom de quelqu'un que j'ai rencontré la journée même, tu sais, mais que ça fait 20 ans que j'ai pas pensé à une personne, puis que là, j'y pense, puis que ça m'apparaît lucide comme si je l'avais pas jamais oublié, tu sais.
Ouais.
C'est quoi la différence entre les souvenirs?
C'est fascinant, hein? C'est ça qui m'a attiré vers la mémoire, c'est ce genre de questions-là, là, où, tu sais, pourquoi j'ai pas vu qu'une personne parle depuis 20 ans, puis elle m'arrive, je vois son visage, puis bang, je sais son nom,
puis je me souviens,
puis il y a des souvenirs d'associés à ça, des odeurs, des moments.
Ouais.
Donc, souvent, c'est des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont plus marqués que d'autres personnes. Il faut qu'il y ait une espèce d'intérêt, de motivation à retenir. Si c'est quelqu'un que t'as peu d'intérêt, que t'as peu... ou à l'inverse, t'sais, qui t'a vraiment fait mal ou blessé, ou là, ça va retenir parce que c'est des événements qui sont importants pour toi. Puis ça reste longtemps. Puis plus que la personne est associée à d'autres souvenirs, plus c'est facile parce qu'ils se forment comme un réseau
par rapport à
cette personne-là. Exactement. Un network autour de cette personne-là. Puis plus qu'il est solide, plus qu'il est présent, plus ça va être difficile d'effacer cette mémoire-là.
Ça, c'est vraiment intéressant. Fait que quand, mettons... Tu sais, on peut penser à quelqu'un, justement, quelqu'un du secondaire, c'est qu'il y a tout un network de souvenirs liés à mon secondaire, des amis que j'avais qui sont encore dans ma vie, qui cette personne-là fait partie du network, qui est plus solide que quelqu'un que j'aurais rencontré dans un centre d'achat hors d'un contexte qui est dans ma mémoire, mettons.
Exact. Puis des fois, ça vous est déjà arrivé, une personne que tu connais très bien, mais... t'es pas capable de la replacer. Puis des fois, c'est juste parce que est dans un contexte complètement différent. Donc, tu l'as connu à l'école, tu sais, au primaire, puis là, tu la vois, mais c'est à piscine, puis t'es avec ta famille, puis t'es en vacances.
Ouais.
Là, elle me dit quelque chose, mais là il manque comme le contexte de cette personne-là, puis là, ça devient plus difficile. Puis là, des fois, ça revient pas, mais là, un petit peu plus tard dans la journée, ça clique, tu sais. C'est comme, oui, c'était telle personne.
Mmh. Puis ça, c'est quand ça arrive, ça, c'est pas nécessairement le fun. Quand tu sais que la personne te parle, elle te reconnaît, toi, tu sais que tu devrais la reconnaître, puis t'es comme, tu me reconnais-tu? Je te reconnais.
Ça arrive à tout le monde.
C'est comme si l'information qu'on peut penser qui a été effacée de notre cerveau, elle est là comme dormante, en attendant qu'à un moment donné, on rouvre le tiroir, puis que ça c'est fou quand même, là, pendant des années, justement, des choses qu'on peut pas penser, mais finalement, ça reste enregistré, là, toutes ces affaires-là?
Ben, pas tout, mais beaucoup de choses. Ouais. Donc, des fois, il y a des stress post-traumatiques. Donc, la personne est comme bloquée, n'est pas capable d'avoir accès à certains souvenirs du passé à cause de notre traumatisme qui est arrivé.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand ça arrive?
Ben,
on entend beaucoup, mettons, en ce moment, là, quand il y a des agressions qui sont commises, la personne bloque ce souvenir-là, puis n'est plus capable de... T'sais, les souvenirs sont flous à cause qu'il y a quelque chose qui s'est passé et elle a eu un choc. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans les neurones puis dans les transmetteurs?
Il y a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus. Là. On ne comprend pas exactement comment ça se fait là, au niveau moléculaire, puis cellulaire, puis tout ça. Donc, il y a encore beaucoup à apprendre, mais c'est vraiment un blocage. Puis il y a une décharge de stress énorme. Puis ça serait tellement énorme que ça vient comme bloquer le comme je vous disais, là, il y a un transfert d'informations qui va de l'hippocampe vers le cortex. Bon, ben ça serait à l'inverse. Là. Ça l'empêcherait de ramener ces souvenirs-là au niveau de l'hippocampe pour qu'on puisse s'en souvenir. Mais c'est pour ça aussi que c'est modulable, parce que ça revient. Donc, tu sais, des fois, on voit ça en cours, les personnes... T'sais, l'influence que les gens peuvent avoir quand on fait témoigner quelqu'un. Mm-hmm. Donc, dire « T'es sûr que t'avais pas vu ça? » Puis « C'était pas arrivé de cette manière-là. »
Puis là, le cortex est capable de ramener donc, l'information.
Il ramène l'information, mais là, quand elle revient à l'hippocampe, elle redevient modulable. Donc, on peut comme insérer un souvenir qui n'était pas là au départ. Puis là, après ça, ça va se réenregistrer. Puis là, après ça, la personne peut revenir et est sûre, dure comme fer que ça s'est passé de telle manière, alors que non, c'est l'interférence qu'il y a pu avoir avec des personnes qui, à force de l'interroger, poser des questions, l'emmener vers une direction qui finit par faire croire à la personne que c'est arrivé de cette manière-là.
C'est fou ça, tu sais, puis ça arrive aussi des fois, on dirait, avec des souvenirs très lointains de la jeunesse, puis à un moment donné, tu sais même plus si c'est une vraie mémoire ou c'est une histoire que t'as entendue puis qui t'a marqué puis que ça a comme créé des images, puis tu sais plus si c'est l'imagination, la mémoire. Fait qu'à un moment donné, tout ça se mélange un peu.
Oui, tout à fait. Donc, c'est dur là, de savoir des fois jusqu'à quel point c'est pur. Donc, tu sais, si quelqu'un entretient la mémoire, donc, tu sais, un enfant, il perd sa grand-mère assez jeune, si... il n'y a jamais de rappel de photos. Puis tout, surtout s'il est jeune, là, en bas de 5-6 ans, il ne va pas avoir grand souvenir. Mais si cette mémoire-là est entretenue par des photos, des vidéos, puis tout ça, l'enfant va avoir vraiment l'impression de l'avoir connu plus qu'il aurait pu s'en souvenir qu'en réalité, parce que de son souvenir réel avec cette personne-là, ça se serait effacé, puis il n'y aurait plus accès à ces moments-là.
Moi, j'ai un souvenir. Moi, j'ai justement ma grand-mère qui est décédée, je pense, quand j'avais 5 ans à peu près. Puis j'ai un souvenir de ma grand-mère qu'on était au centre d'achat, puis que je me souviens d'avoir dit à ma mère, j'avais vu un toutou, puis là, je veux ce toutou-là. Ma mère avait dit non. Puis finalement, ma grand-mère, elle l'avait comme acheté en cachette. Puis à la fin de la journée, elle me l'avait donné. Puis elle m'avait fait un petit clin d'œil. Puis je l'ai encore sous tout là. Puis c'est comme le seul souvenir que j'ai. Mais tu sais, en même temps, comment ça s'est passé pour vrai? Puis l'image que j'ai dans ma tête, il y a sûrement une distorsion quasiment sûre.
Il y a des bonnes chances. Mais s'il y a une décharge émotionnelle très grande, ça se peut que ça soit vraiment ton souvenir originel. Puis que tu t'en souviennes vraiment pour ce que c'est. Mais si, par exemple, ta mère ou ta grand-mère t'a répété cette histoire-là encore, encore et encore, ça se peut que ce souvenir-là vient de cette répétition-là et non pas du souvenir original.
À partir de quand est-ce qu'on commence à emmagasiner de la mémoire? C'est parce qu'on se dit, on essaie de réfléchir à notre jeunesse, puis il y a une partie qui n'existe pas dans notre mémoire. Puis c'est à partir de quand est-ce qu'on est capable de commencer à faire ce travail-là, puis à retenir des informations qui vont rester pour le reste de nos vies? T'sais?
Bien, on enregistre là, dès qu'on est, on commence à enregistrer. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne se souvient pas quand on est jeune.
Ouais.
Donc, c'est. Quand on est plus jeune, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein d'informations hyper importantes qu'on doit se souvenir pour notre survie, puis ouais. Apprendre à vivre en société, puis avec les parents, puis la famille. Donc, c'est là-dessus que le cerveau se concentre. Puis après ça, va venir des souvenirs qui sont moins important pour l'enfant, des notions, des concepts qui sont plus abstraits, puis être capable de planifier. Puis, donc, ça se fait dans le temps. C'est pas parce que tu n'as rien des 6 ans et moins que mm-hmm. t'as rien appris. T'as appris énormément, t'as engrangé énormément d'informations qui sont hyper, hyper importantes pour toi. Mais des souvenirs précis d'une fête d'enfant ou de voyage avec les parents puis tout ça, ça c'est pas des choses qui vont rester très longtemps, à moins que ça soit entretenu. Mm-hmm. Donc ça se fait graduellement, tu sais, c'est une priorité là qui se fait dans ce qui doit être enregistré ou pas, puis au fur et à mesure. Puis aussi il y a des partie du cerveau comme le cortex préfrontal qui est pas bien formé au début de quand on est jeune, il continue à se développer jusqu'à dans vingtaine. Donc ça c'est une région du cerveau qui est importante pour la planification, l'abstraction, le contrôle émotionnel. Donc cette région là du cerveau étant pas pleinement fonctionnelle parce qu'il est pas encore complètement développé, ben ça vient jouer aussi sur les capacités de la personne, de l'enfant à enregistrer certaines informations.
Mm-hmm. Puis est-ce qu'un enfant, mettez exemple, un enfant, je sais pas, de 2 ans qui vivrait, je sais pas quoi, mais un événement traumatique X, même si, mettons, plus tard, il n'y a pas un souvenir de cet événement-là, il peut l'avoir emmagasiné quand même, puis ça peut...
Il sera peut-être pas capable de s'en rappeler de façon consciente puis tout, mais il peut avoir des souvenirs, puis ça peut des fois expliquer certaines peurs, certaines craintes, mais ça, là c'est dur de jouer là-dedans parce qu'il
y a pas... On tombe dans l'inconscient un peu, là, tu sais.
Ouais, parce qu'on n'est plus, on est plus capable de c'est plus conscient. Donc, on n'est plus capable de savoir jusqu'à quel point ça l'a joué. Donc, s'il est arrivé, je sais pas, un événement vraiment traumatisant pour l'enfant, il s'est fait attaquer par des guêpes, un gros guêpe, à 2-3 ans, peut-être qu'il ne va pas s'en souvenir comme tel,
mais il va
développer une peur qu'il ne sera pas capable de comprendre. Mais d'où est-ce que ça vient, puis tout? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'associé à ça très, très jeune. Ouais. Mais ça, habituellement, c'est tellement traumatisant que ça, même si ça t'arrive assez jeune, tu sais, à 4-5 ans, souvent, même tu vas, ou 6 ans, tu vas te souvenir de ça. Ouais. Si c'est très, très jeune, ben peut-être que tu ne vas pas t'en souvenir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des séquelles, des conséquences de ce souvenir-là. Ouais.
C'est fou comment la mémoire peut jouer sur, justement, des réactions qu'on a pendant longtemps. Tu sais, moi, je pense que j'avais déjà raconté cette histoire-là, mais à un moment donné, on était au chalet, puis on a ouvert le foyer, puis une chauve-souris qui est sortie, puis qui s'est mise à voler dans le chalet. Puis là, mon père, pour une raison qui est encore à ce jour inexplicable, il s'est mis à crier « Protégez vos cheveux! » Comme si la chauve-souris allait se pogner dans nos cheveux, puis que... Fait que là, moi, j'étais tout petit, puis là, protégez nos cheveux, je protège mes cheveux. Puis à ce jour... Aussitôt que je vois une chauve-souris, mettons que je suis dans la forêt, je suis dans un chalet quelconque, aussitôt que je vois une chauve-souris, j'ai tout le temps l'espèce de réflexe de protéger mes cheveux. Puis c'est quelque chose, je veux dire, je suis capable de raisonner maintenant que ça n'a pas rapport, tu sais, mais encore, à ce jour, j'ai une espèce de peur de mes cheveux, là, tu sais.
Exact. Puis déconstruire ça, c'est très, très dur, là.
Est-ce qu'il y a des façons de le faire?
Ben oui, il y a des moyens, là, on peut aller... pour essayer. Je pense que vous en avez parlé aussi avec Sonia Lupien. Elle serait beaucoup mieux placée, moi, pour vous expliquer comment déconstruire ce genre de souvenirs-là. Mais ça se fait. Il y a des thérapies qui existent, puis il y a moyen d'en arriver à avoir moins peur. Mais il va tout le temps rester une petite quelque appréhension chose, ouais. de ça.
C'est dommage.
Un souvenir comme... ou à tout moins, j'ai déjà eu peur de ça.
Donc je m'en rappeler.
Tu sais, là, je suis moins pire, là, je suis mieux, mais... Donc, c'est un souvenir, mais ça, on peut en arriver par la logique à jouer, puis à plus être trop effrayé par ça.
Mm-hmm. C'est vraiment intéressant ce que tu disais plus tôt, justement, avec la personnalité en lien avec la mémoire. Finalement, la personne qu'on est, la personnalité, vraiment, c'est la somme de nos expériences, finalement. Mm-hmm. Est-ce que c'est plus ça que quelque chose de inné biologique, ou c'est les deux, ou c'est vraiment nos mémoires carrément définies notre personnalité puis comment qu'on est?
Beaucoup, énormément. C'est pour ça que ce qui m'a attiré, c'est que c'est tellement lié à qui on est, tu sais. On est la somme de toutes les expériences qu'on fait dans notre vie. Donc, puis si on réussit pas à se souvenir de ces expériences-là,
On perd notre identité,
on perd notre personnalité, puis on le voit là, avec les personnes Alzheimer, là, et on finit par plus les reconnaître parce qu'ils ne sont plus qui ont été.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis dans cette optique-là, moi j'ai déjà croisé la vie de quelqu'un qui était qui mentait de façon maladive, là, puis il y avait des histoires qui étaient vraiment ancrées dans le réel, mais complètement inventées. Puis lui, quand tout ça a été exposé, lui, c'est qu'il se rappelait de ces histoires-là, tu sais. Il s'est tellement raconté ça qu'il s'en rappelait, puis qu'il était devenu la somme d'histoires inventées, dans le fond, tu sais.
Tout
puis
à fait.
Ça, est-ce qu'on peut créer des souvenirs? Est-ce que ça se peut, dans le fond?
Oui, tout à fait, tout à fait. Tu peux réussir à te convaincre de plein de choses, puis à force de répéter quelque chose, quelqu'un peut finir par croire que c'est réellement arrivé, puis c'est pas... Là, il ment pas, là. Ouais, que pour lui, c'est vraiment arrivé, puis d'attitude, là, tu feras pas changer...
Il se mélangeait jamais dans ses mensonges parce que... C'était pas des mensonges pour lui.
Exact. Il s'est construit un monde qui était pas tangible dans le réel, mais qui est là, qui est dans sa tête, puis qui est bien, qui fait du sens pour lui. Donc, c'est comme quand on se disait, là, tu sais, se souvenir en faisant des histoires. Mm-hmm. Lui, c'est la même chose. Il s'est fait des histoires qui se tiennent ensemble, un réseau d'informations qui sont cohérentes les unes par rapport aux autres. Donc là, t'en viens à avoir un super menteur qui... puis là, ça c'est des menteurs pathologiques.
Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Et là, c'était problématique dans sa vie à lui. Là. Puis dans la vie, en fait, des gens qui croisaient, là, tu sais.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qui fait que, tu sais, mettons, sachant que la mémoire, justement, est imparfaite puis qu'elle est modulable, qu'est-ce qui fait que, mettons, justement, légalement, un témoin ou, tu sais, ou des témoignages aient autant de poids? Je suis vraiment pas en train de critiquer ça, mais juste pour comprendre, parce qu'on le sait que c'est altérable, là, la mémoire.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des mesures mises en place pour éviter ce genre d'influence-là externe, pour empêcher d'induire des faux souvenirs aux gens. Donc, il y a des processus qui existent pour diminuer, minimiser ça, pour que cette mémoire-là reste le plus pure possible, sans être entachée par des personnes qui veulent t'emmener vers mm-hmm. à dire quelque chose. Mm-hmm. Mais c'est pas facile. Puis c'est pour ça que des fois, il y a des témoignages, puis il y a un juge, puis il y a des personnes qui sont là pour regarder jusqu'à quel point tout ça se tient. Ouais. Puis
ça reste imparfait, ça demeure imparfait, mais c'est la seule chose qu'on a.
Ben ouais. Ouais,
inversement, justement, quand on disait qu'il y a certaines mémoires qui sont traumatiques, traumatisantes, qui sont répressées, ben c'est en cours, justement, ça crée le problème que finalement la personne qui a vécu ce traumatisme-là ou qui a été agressée ou quoi que ce soit puisse pas aller le raconter d'une manière objective, d'une manière super précise à cause de ça, puis ça joue contre elle. T'sais.
Ben oui, tout à fait. Une fois, ils vont poser des questions très spécifiques, puis là, après ça, on regarde ça dans les journaux. Puis là, on se dit,
des fois, c'est presque absurde.
Comment ça, pourquoi on ne peut pas se souvenir de ça? Mm-hmm. Mais faut tout comprendre la scène, l'environnement, le contexte dans lequel ça s'est produit. Puis il y a des mécanismes de blocage quand ça fait trop mal à quelqu'un pour empêcher d'aller vers ça puis se faire encore plus mal. Puis il y a plein de détails qui sautent. Puis des fois, ça va donner moins de crédibilité à un témoignage parce que... mais là, tu sais pas ça. Qu'est-ce que ça vaut, ton témoignage? Puis là, c'est là que se joue la game des avocats à essayer de discréditer un témoignage pour faire gagner son client. Puis...
Des fois, les questions sont assez absurdes. C'est quoi la couleur des rideaux? Puis des affaires de même. Là, on est rendu dans le détail. Là,
je me rappelle même pas c'est quoi la couleur des rideaux dans mon ma chambre à coucher. Ouais, qu'est-ce qui arrive quand on commence à perdre la mémoire? Pourquoi ça arrive, puis comment ça arrive, en fait?
Oui, donc le meilleur exemple de ça, c'est sûr que c'est la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. Donc, pourquoi les gens ils perdent la mémoire? Bien, c'est tout simplement parce que les cellules du cerveau, dans la région du cerveau qui s'occupe de la mémoire, l'hippocampe, meurent. Ces cellules-là, les neurones meurent. Donc, moins qu'on a de neurones, mais ça finit par détruire les réseaux, les networks. Puis, il n'y en a plus assez. Puis, ça commence par des trous. Tu sais, des fois, il en manque quelques-uns. Ben, au début, la personne est capable de compenser. Tu sais, des fois, on oublie un mot, mais on est capable de le remplacer par un autre.
Fait qu'on s'en rend pas tout de suite compte.
Oui, des fois, avec l'âge, c'est normal aussi de ne pas avoir la même acuité puis le même degré de capacité de mémorisation. Il y a ce qu'on appelle les problèmes de mémoire subjectif. Mm-hmm. Donc, la personne... ce qu'on demande à ce moment-là à la personne, c'est est-ce que tes problèmes de mémoire te nuisent dans ton quotidien? Si la personne dit non, ben souvent ça va rester de même. Mais si la personne dit oui, ça me préoccupe, puis je sens que dans le quotidien là, ça vient me perturber. Là, c'est souvent ces personnes-là qui répondent de cette manière-là, qui ont plus de chances d'aller vers la maladie d'Alzheimer.
Okay.
Donc c'est là que faut faire attention pour faire un suivi. Donc, c'est ça qu'ils font au début. Ils posent des questions à la personne, puis on essaie de voir jusqu'à quel point ces problèmes de mémoire sont importants ou pas.
Puis, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui fait que les cellules meurent?
Non. Puis c'est ça tout le problème. Puis, c'est la grande question. Puis ça, c'est pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est aussi pour la maladie de Parkinson. C'est qu'on ne connaît pas encore, on ne sait pas encore pourquoi les neurones meurent. La journée qu'on va répondre à cette question-là, là, on va réussir à développer des médicaments qui sont efficaces, qui vont agir sur la source même du problème. Puis là, ça va exploser. Là, on va avoir des traitements qui vont être merveilleux. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne réussit pas à répondre à cette question-là, on va avoir des médicaments qui vont régler, qui vont prévenir certains symptômes, mais c'est pas mal ce qu'on peut faire le mieux.
Est-ce que les cellules meurent dans tous les cas? Est-ce que le vieillissement normal, il y en a des cellules qui meurent, puis c'est juste pire si on fait de l'Alzheimer, ou c'est vraiment les cellules qui meurent dans cette région-là, c'est lié à l'Alzheimer? Est-ce que c'est normal?
Il y a eu une controverse à savoir est-ce que c'est juste un processus normal, mais les recherches semblent indiquer que non, c'est pas le cas. C'est pas parce que tu vieillis que nécessairement tu vas développer la maladie d'Alzheimer. Mais donc, dans un cerveau de personnes saines, sans maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de mort neuronale. Il peut y avoir des pertes synaptiques, donc ça, c'est les connexions entre les neurones.
Okay.
Mais
Parce qu'une personne âgée, à la base, en général, va avoir un déclin dans sa mémoire.
Oui. Puis souvent, ça va être des pertes synaptiques.
C'est ça.
C'est pas le neurone qui meurt comme tel,
c'est des déconnexions.
C'est des déconnexions.
Puis est-ce que, mettons, en se rappelant de l'histoire, une connexion peut se refaire ou non?
Ben oui, si c'est répété plusieurs fois, puis les personnes sont encore même très âgées, sont capables de se faire des nouveaux souvenirs, puis apprendre des nouvelles choses, puis il faut le faire. Ouais, il faut garder le cerveau actif, c'est hyper important.
Parce que j'imagine que tu sais, le cas de l'Alzheimer, c'est sûr que là c'est un cas particulier, puis ça c'est vraiment difficile, je pense, à prévenir. Mais mettons pour, est-ce qu'il y a des manières de freiner la perte cognitive normale qu'on vit lorsqu'on vieillit? J'imagine que rester actif, lire, tout ça, cette affaire-là, ça joue, mais c'est quoi finalement les manières de freiner ce vieillissement-là? Finalement, y en a-tu?
Ben, il n'y a pas de Saint Graal.
Non, il n'y a pas de fontaine de jouvence.
Il n'y a rien de magique. Il n'y a pas de produit là, qui est vraiment là, miraculeux. C'est les saines habitudes de vie. Donc, il faut bien s'alimenter, il faut faire de l'exercice, il faut garder son cerveau actif, il faut rester socialement actif aussi. Donc, ça, c'est super important. Donc, c'est juste de faire travailler ton cerveau. Plus que ton cerveau travaille, plus qu'il va être... ça va l'aider à moins décliner vite dans la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a plusieurs travaux qui commencent à montrer que c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. Donc, c'est pour ça, un des facteurs préventifs, c'est l'éducation. Donc, plusieurs travaux ont montré que plus qu'une personne est éduquée, puis plus que ça va retarder l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer.
Plus qu'une personne est éduquée dans sa vie ou plus qu'une personne continue à s'éduquer au fil du temps?
Exact. C'est au fil du temps. Donc, c'est pas juste...
c'est pas, mettons, si tu fais un DEP versus université, mais qu'à 25 ans, t'arrêtes d'être éduqué, ça change rien. Là.
Exact. Donc, c'est sûr qu'il y a les études... universitaire puis tout ça, c'est pas mauvais, mais il faut toujours continuer à apprendre des choses, rester connecté, informé sur ce qui se passe dans le monde, sur notre famille, nos amis, faire des calculs mentaux, des activités sudoku, mots croisés, toutes ces des fois des jeux virtuels où on pratique la mémoire spatiale, tout ça aide à garder une meilleure mémoire.
Est-ce que la retraite, c'est pas un peu un couteau à double tranchant en ce sens-là, que, tu sais, OK, à partir, je sais pas, à 65 ans, je deviens, tu sais, un peu plus oisif, un peu, moi, tu sais, je vais peut-être moins, justement,
plus sédentaire.
Plus sédentaire, faire moins travailler mon cerveau parce que j'ai plus le travail.
Je suis off, là.
Donc, est-ce que ça, finalement, ce modèle-là fait pas accélérer un petit peu le vieillissement à partir de ce moment-là?
Ben tout à fait. Si la personne entrevoit la retraite de cette manière-là, il se dirige vers une pente déclinante.
Ouais.
Donc il faut vraiment comme il y a un article qui paraît dans The Lancet où il montre que il y a 12 risques modifiables qui peuvent expliquer 40% des cas de démence. Donc, si on joue sur ces facteurs de risque-là, on peut avoir un impact réel sur l'apparition puis la progression de la maladie d'Alzheimer.
Ah ouais.
Donc là, on parlait d'éducation. Ça, c'en est un, de garder actif. Après ça, là, c'est divisé en trois. Donc, en début de vie, c'est pas mal l'éducation. Après ça, en milieu de vie, puis un peu plus tard. Donc, en milieu de vie, c'est plus faire attention à pas développer d'hypertension, d'obésité. Donc, ça, c'est hyper important. Puis après ça, en fin de vie, ben c'est plus pas s'isoler socialement, éviter la dépression, faire du sport, pas être obèse, pas de diabète. Donc, ça, c'est si on accumule tous ces facteurs-là, puis on y fait attention, on peut, pour de vrai, avoir un impact réel, puis... pas développer la maladie d'Alzheimer. Parce que on parle de traitement, mais juste l'empêcher d'arriver. Il a été montré que si on réussissait à retarder de seulement 2 ans l'apparition de la maladie d'Alzheimer, c'est 34 % de moins de gens qui auraient besoin de se retrouver dans des maisons de soins de longue durée.
Mmh. Wow, OK.
Donc, juste 2 ans.
Juste 2 ans.
Pour le tiers des gens.
Oui, parce qu'à cet âge-là, les gens sont rendus assez vieux où il peut arriver beaucoup d'autres choses qui vont faire que la personne va décéder avant qu'elle développe la maladie d'Alzheimer.
Mmh. Quand tu parles de contacts sociaux, de garder des contacts sociaux longtemps, là, tu sais, est-ce que tu crois qu'avec la situation actuelle de la COVID, ou est-ce qu'il y a eu des personnes âgées qui ont été forcées de rester à l'intérieur chez eux, de jamais sortir, dans plusieurs endroits de soins, même dans les maisons, en fait, là, tu sais, est-ce que tu entrevois qu'il va y avoir une hausse de l'apparition de symptômes de maladie d'Alzheimer dans cette génération-là qui là était comme limite est encore actif, mais que là du jour au lendemain on les empêche d'aller voir leurs amis le mardi, d'aller jouer aux cartes le vendredi, de côtoyer d'autres gens?
C'est sûr que ça a joué, comme je disais, l'isolement social, dépression, manque d'activité physique. Ouais. Donc, c'est, comme je disais, c'est tous des facteurs de risque. Puis le confinement que les personnes âgées ont subi engendre ce genre de problème-là. Donc, nécessairement, ça a eu un rôle à jouer. Puis il y a aussi que ces personnes-là, ils ont été coupées de gens qui aiment, puis c'est hyper important pour eux, pour diminuer leur anxiété, leur stress sur une situation qu'ils ne comprennent pas vraiment. Leur routine est toute déstabilisée aussi. La routine est hyper importante pour ces personnes-là. Donc, quand ils se sentent déstabilisés par rapport à ça, ça a un impact, c'est certain, sur plusieurs symptômes de la maladie, comme les problèmes de mémoire vont s'accentuer, plus de problèmes d'attention, plus d'apathie. Donc, des trucs qu'ils aimaient faire, qui maintenant trouvent moins d'intérêt.
C'est triste, en fait. Là. Ouais, c'est dommage, tu sais, parce que c'est... Moi, je fais juste penser, tu sais, à mon grand-père qui est encore super en forme, là, tu sais, mais qui s'est fait dire, tu sais, c'est ça, tu peux plus aller voir tes amis. Lui, il était chanceux parce qu'il était vraiment dans une... Tu sais, il habitait encore dans sa maison, puis tu sais, il allait prendre des marches avec sa blonde, puis tu sais, il était encore super actif, puis il avait sa blonde aussi pour être ensemble, tu sais. Fait que, mais je pense à plein de monde comme ça qui pouvait plus sortir, qui pouvait plus voir, puis c'est triste,
ouais. Ouais, vraiment. Le grand-père à mon ex-copine, justement, lui, c'est... Il est toujours resté super actif intellectuellement. Là, t'sais, il lisait le journal, continuait. Puis, tu sais, il est décédé en 2019. Puis, vraiment, jusque la toute fin, là, t'sais, il était super allumé encore. Puis, il nous racontait beaucoup d'histoires de sa jeunesse, beaucoup d'histoires de sa vie. T'sais, puis, c'était super précis, c'était super clair. T'sais, fait qu'il avait vraiment, il a vraiment entretenu, cultivé sa mémoire. T'sais, puis. C'est toujours les mêmes histoires aussi. La fois qu'il a rencontré Béliveau, le joueur d'hockey.
Jean Béliveau,
là, pis ça. Mais en tout cas, super allumé. Puis il est tombé malade. Il a comme fait une pneumonie, puis ça l'a beaucoup, beaucoup affaibli. Puis tout de suite, sur sa mémoire, ça a apparu. C'est comme s'il y a eu un lien direct. Puis il est décédé pas longtemps, il avait 92, 93, fait que des fois, une petite affaire, ça peut vraiment jouer. Puis vers la fin, là, quand on allait le voir à l'hôpital, c'était comme si toutes les mémoires étaient complètement mélangées. Puis c'est vraiment fait rapidement, mais là, c'est comme une seconde, on était dans la pièce avec lui, puis après ça, là, il jouait de mémoire, puis là, il parlait à son frère, ou tu sais, puis c'était comme si là, après toute sa vie était mélangée, puis il passait d'une place à l'autre, il était rendu incohérent, mais c'était quand même des mémoires, on dirait, qui popaient, puis là, tout d'un coup, c'est ça, il était ado, puis là, il parlait à son frère, ou ici, ça, tu sais, puis il était rendu dans un restaurant tout d'un coup, c'est comme si les mémoires prenaient comme le dessus de la réalité, finalement, pour lui.
Ouais, ouais, tout à fait. Ben, quand on parle de maladie d'Alzheimer, faut comprendre que c'est très rare une maladie d'Alzheimer pure. C'est souvent avec une comorbidité. Puis mm-hmm. C'est souvent elle qui est le plus en lien avec la maladie d'Alzheimer, c'est les problèmes cardiovasculaires, donc les démences vasculaires. C'est souvent une démence mixte, Alzheimer et vasculaire. Et ça vient jouer beaucoup sur la mort, tout dépendamment où que ça arrive. Donc, on comprend si il y a un accident cérébrovasculaire qui se mm-hmm. produit, donc un caillot dans l'hippocampe, au niveau de l'hippocampe, bien, on comprend que ça va avoir un impact très important parce que là, quand on bloque un vaisseau ou s'il explose hémorragique, bien, et il va y avoir des dommages qui vont être faits dans cette région-là du cerveau, plus ou moins importante, tout dépendamment de la parce que des fois, des caillots, ça peut rester sur très longtemps, donc ça va créer plus de dommages. Si c'est un petit caillot, puis il disparaît, bien, ça aura moins d'impact. Après, ça dépend de l'ampleur d'accident cérébrovasculaire, puis où que ça se produit. Parce que si ça se produit, des fois, il peut y en avoir, mais qui sont silencieuses, qui arrivent dans des régions du cerveau où ça n'affecte pas la parole, ça n'affecte pas la mémoire, ça n'affecte pas ses fonctions motrices, puis personne ne s'en rend compte. Et ça ne veut pas dire que c'est rien passé. On s'en rend compte quand il y a une fonction à quelque part qui ne fonctionne pas comme c'était habituellement. Mm. Puis c'est ça. Ça arrive beaucoup pour la maladie d'Alzheimer parce que si on bloque certains vaisseaux, plus que les vaisseaux sont gros, puis plus aussi que ça va avoir un impact important. Puis aussi, ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a des protéines. On ne sait pas d'où vient la mort neuronale, mais il y a certaines protéines qu'on sait qui pourraient à tout moins jouer un rôle. Tout expliquer la mort neuronale, mais une partie de la mort neuronale. Donc, c'est des protéines qui s'appellent amyloïde bêta. Et ce qui se produit, c'est que ça s'accumule dans le cerveau. Puis, surtout pendant le sommeil, c'est éclairé, c'est éliminé du cerveau. Mais si, donc ça va dans le CSF, dans le sang, puis on l'élimine de même. Mais si les vaisseaux sont bloqués, bien ça empêche une bonne élimination de cette protéine-là. Il y a plus d'accumulation, puis il y a plus de pertes synaptiques, de contact entre les neurones, et éventuellement, ça peut mener à la mort neuronale.
Mon grand-père, j'ai toujours pensé qu'il a fait de l'Alzheimer. En fait, c'est ce que mes parents, quand j'étais petit, c'était comme on appelait ça l'Alzheimer. Puis en parlant récemment, mon père est médecin aussi. Puis en parlant récemment, je parlais de la maladie de l'Alzheimer de mon grand-père qui est mort quand j'avais 10 ans. Là, puis il dit c'était pas ça fait de l'Alzheimer, c'était de la démence vasculaire. Fait que ça, c'est ce que tu décris là,
exactement.
Finalement. C'était quand
c'est
que
ça.
La connexion, ouais, en fait, il n'y a pas le cerveau passé alimenté, finalement, parce qu'il y a des vaisseaux qui sont bloqués?
Exact. C'est, le sang apporte au cerveau nutriments et oxygène. Mm-hmm. Donc, s'il manque un de ces deux ingrédients-là, c'est sûr qu'il va avoir des répercussions plus ou moins grandes, tout dépendamment, comme on disait, où ça se produit, puis combien de temps ça va durer.
Dans le fond, dans ces cas-là, c'est ça, c'est les vaisseaux sanguins, finalement, qui sont bloqués, carrément.
Bloqués ou qui pètent, là.
Ou qui pète, ouais,
quand il pète, c'est hémorragique.
Puis c'est pour ça, est-ce que c'est pour ça qu'il y a un lien entre obésité et ces maladies-là? C'est parce que quand on souffre d'obésité, il y a plus de chances que nos vaisseaux soient.
L'hypertension, tu mets tes vaisseaux à mal quand tu as l'hypertension parce qu'ils deviennent plus gros, plus tendus. Mm-hmm. Donc là, il y a plus de chances qui pète puis qui crée des hémorragies. Donc, okay. Ça, c'est un des facteurs de risque aussi de la maladie d'Alzheimer. Mm. Donc, si tu souffres d'hypertension, ben, tu as plus de chances de développer la maladie.
Tantôt, tu mentionnais le Parkinson, qui est aussi où est-ce que les neurones meurent, en fait. Là. Puis, pour le Parkinson, il y a un traitement d'amener un électrode dans une zone précise du cerveau, puis de stimuler cette zone-là, puis de régler ou de contrôler les symptômes du Parkinson. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible aussi avec l'Alzheimer? C'est quelque chose qui a-t-il des recherches qui se font dans ce sens-là? Parce qu'une fois que la zone du cerveau où est-ce que les neurones meurent commence à en fait, est ciblée, est-ce que c'est une possibilité éventuelle, ça? Ou?
Ça pourrait être une possibilité. Présentement, ce qu'on a comme traitement, c'est la L-DOPA. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, c'est de la mort neuronale qui se produit très tôt dans le cortex entonnal et hippocampe. Dans la maladie de Parkinson, c'est la même chose. C'est de la mort neuronale. On ne sait pas encore pourquoi, mais ça se produit dans une autre région du cerveau qui s'appelle la substance noire. Puis, elle vient projeter, envoyer... Donc, le corps cellulaire de ces neurones-là sont dans la substance noire et projette dans d'autres régions du cerveau le striatum. Donc, c'est la voie nigro-striée. Puis, il meurt très tôt. Puis, c'est la même chose. Le cerveau est capable de compenser très longtemps. Il va avoir jusqu'à 40-50% de mort dans cette région-là du cerveau avant que la personne commence à sentir des symptômes. Donc, c'est très... tu disais, il n'y a pas de nouvelles cellules qui se créent, mais il y a énormément quand même de plasticité. Donc, quand il y a un neurone qui meurt, mais les autres aux alentours environnants, mais ils vont prendre la relève, ils vont faire des réseaux, des synapses. Puis c'est un peu comme ça qu'ils vont compenser. Mais à un moment donné, la mort neuronale est tellement importante que là, le système est plus capable de dealer avec, puis là, les symptômes apparaissent. Donc, dans les neurones qui partent de la substance noire vers le striatum, c'est ce qu'on appelle les neurones dopaminergiques. Donc, il finit par manquer de dopamine dans le striatum. Donc, c'est pour ça qu'on donne la L-DOPA. Donc, ça traverse la barrière hématoencéphalique, ça rentre dans le cerveau, puis ça vient compenser la mort des neurones dopaminergiques en fournissant la dopamine qui est manquante. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ce qui se fait. Après ça, dans des modèles animaux, ben on peut faire des stimulations électriques dans ces régions-là du cerveau, puis ça va avoir un impact positif parce que même s'il en reste moins, ben on réussit à les stimuler pour favoriser la libération de dopamine, puis venir compenser un peu le manque de dopamine qu'il y a dû à la mort des neurones. Mais ça, on comprend que tout ça fonctionne tant et aussi longtemps qu'il en reste. Puis quand la mort de neuronale devient trop importante, quand il est en 90-100, ben, t'auras beau stimuler comme tu veux, il est rien stimulé.
C'est pour ça que le traitement est juste fait dans les phases au début de la maladie, avant que ça devienne trop avancé. Là.
Exact. Puis là, c'est la même chose aussi pour les traitements aussi de la maladie d'Alzheimer, c'est que il y a certains médicaments qui fonctionnent pas chez tout le monde, puis qui c'est surtout pour certains symptômes durant une certaine période de temps. Puis dans cette période de temps-là, c'est souvent au début de la maladie. Donc, on parlait de mort neuronale. Il y a un système de neurones qui s'appelle acétylcholine, donc cholinergique. Puis ça meurt très vite dans la maladie. Donc, on va faire la même chose. C'est comme il manque de ces neurones-là, ben, on va augmenter le neurotransmetteur qui manque, l'acétylcholine, en venant bloquer sa dégradation. Donc, ça permet à l'acétylcholine d'agir plus longtemps sur les neurones, puis venir compenser la mort neuronale cholinergique. Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire pour la maladie d'Alzheimer. Mais c'est la même idée. C'est à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ouais. Puis, t'as beau essayer de stimuler en empêchant l'acétylcholine de dégrader, quand il n'y a plus assez d'acétylcholine, il n'y en a juste plus assez. Donc, c'est pour ça que c'est limité dans le temps, c'est ce genre de traitement.
Mm-hmm. Tu parlais, tu sais, des 12 facteurs, je ne sais pas comment tu appelles ça exactement, facteurs de risque, ouais, là, mettons, qui peut contribuer, augmenter les chances de développer cette maladie d'Alzheimer-là. Est-ce que quelqu'un qui aurait une hygiène de vie là, vraiment super, là, actif, intellectuellement actif aussi, mange bien, dort bien, pas stressé, est-ce que quelqu'un peut tout bien faire?
Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. En 2021, ça n'existe pas, ça.
Mais est-ce que quelqu'un pourrait vraiment avoir une bonne hygiène de vie puis quand même développer la maladie d'Alzheimer sans qu'on sache pourquoi? Là,
ben oui, évidemment. Donc, c'est ça, c'est des facteurs de risque. Puis t'as beau tout faire à la perfection, ça va diminuer tes chances. Mais tu peux pas faire mieux que juste diminuer tes chances.
De la méditation, 30 minutes à tous les matins. puis d'avoir une hygiène de vie A1, garder actif, puis juste que ça arrive quand même.
Ah, c'est dole. Hein?
C'est ça. Donc, c'est une balance de ta vie, de ce que tu veux de ta vie. Puis c'est juste que nous, on met ça sur la table, on dit, regardez, là, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables. Après ça, c'est à toi de faire tes décisions, puis décider qu'est-ce que tu incorpores ou pas dans ton hygiène de vie. Puis plus que tu vas l'incorporer, puis plus que ça risque de bien aller.
Ouais.
Mais après ça, c'est les facteurs environnementaux. Puis il y en a d'autres où il y a des facteurs aussi qui sont génétiques. Puis mm-hmm. ça, tu as beau avoir l'hygiène de vie que tu veux, tu peux pas passer à côté.
S'il y a de l'Alzheimer dans ta famille, quelles sont les chances que ça se transmette de génération en génération? Y a-tu des études qui sont faites sur à quel point ça peut être dans les gènes?
Oui, donc il y a certaines formes qui sont héréditaires, mais c'est très rare. Donc il y a comme deux Alzheimer, là, au minimum. Donc il y a les formes sporadiques de la maladie d'Alzheimer. Donc là, on ne connaît pas encore les causes. Puis là, on parle ici de 99 % des cas. Puis il y a un petit pourcentage, là, à peu près 1 % où c'est les formes familiales.
Donc, okay.
Les formes familiales, c'est des mutations que dans certains gènes qui vont augmenter le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est pas parce que tu as ce gène-là que nécessairement tu vas la développer, mais tu as plus de chances. Puis
est-ce qu'il est observable, ce gène-là? Est-ce qu'on peut, oui. mettons, on peut l'analyser, là, on peut le trouver?
Oui, oui, vous pouvez faire des tests de salive, vous envoyez ça à un laboratoire, il vous revient avec les tests, puis il va vous dire, OK, vous avez le plus grand facteur de risque génétique pour les formes sporadiques de la maladie d'Alzheimer, c'est un gène qui s'appelle APOE4. Donc, c'est une protéine qui existe à différentes saveurs. Donc, la APOE 2, 3, 4. Puis, c'est la 4 qui...
Coconut et lime.
Donc, c'est cette forme-là qui semble augmenter le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, si tu as cette isoforme-là, ben si tu as deux copies de ce gène-là, ben tu as à peu près 12 fois plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer.
Ah,
la
ouais.
bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu de personnes qui ont deux copies de ça. Il y a à peu près 1-2 % de la population qui ont deux copies de APOE4.
Ce qui est quand même 2 personnes sur 10, sur 100 quand même, là, tu sais.
Ouais, 1-2 personnes sur 100.
Ouais.
C'est pas négligeable, mais...
Ouais. Ça augmente les risques, t'es pas prédestiné à l'avoir.
Exact. Même si t'as les deux copies, il y en a 12 % plus de chances. Ben, il te reste des chances de pas l'avoir non plus. Puis si t'en as une, ben là, c'est plus répandu. Là, on parle d'à peu près 25 % de la population, mais t'as à peu près 2-3 fois plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est vraiment le gène, là, le facteur de risque génétique le plus important pour la forme sporadique de la maladie d'Alzheimer.
OK, c'est ça. Qui est comme le... C'est bon, je comprends.
Puis quand on parlait justement de tout bien faire pour diminuer les risques de le développer, mais j'imagine que si justement on a ces bonnes habitudes de vie-là, si on était pour le développer, on risque de le développer plus tard, I guess.
Peut-être que oui, peut-être que non. Ah. On peut mourir d'autres choses avant d'avoir eu le temps de développer la maladie d'Alzheimer.
Mm-hmm.
Donc,
dans tous les cas, on va mourir.
Ouais.
Ça, on est tous destinés à la mort.
Je comprends que tu veux pas mourir, là, mais c'est pas mal ce qu'il y a au bout du chemin.
Ouais, ça, c'est
ça. Puis, moi je suis végétalien dans la vie. Puis quand je suis devenu végétalien, il y a beaucoup de monde qui me disait... fais attention, oméga 3 pour la mémoire, pour c'est-tu vrai ça ou c'est juste de la bullshit que de manquer d'oméga 3 pourrait mener vers une perte de mémoire ou vers des moins bonnes capacités cognitives au niveau de...
Donc, ouais, c'est ça. Après, quand on rentre dans l'alimentation, donc oméga 3, il y a eu des études qui ont été faites de suppléments oméga 3. Puis dans des bonnes revues, là, JAMA Neurology, puis ils n'ont pas vu d'effet de supplément oméga 3.
Ouais.
Okay? Puis, mais il y aurait peut-être quelque chose, pour justement, si quelqu'un a les gènes APOE4, ça pourrait éventuellement avoir un impact. Mais ça reste à être...
c'est pas encore prouvé.
C'est ça. Il y a encore de la recherche à faire. Ça serait peut-être là. Mais... oméga 3, ça ne veut pas dire que si c'est incorporé dans des saines habitudes de vie, donc le régime alimentaire qui est le mieux, là, c'est le méditerranéen, on l'appelle le MIND.
Donc pas mal poisson plus légumes.
Poisson, légumes, fruits. Ouais. Donc, c'est pas mal la base de ce régime-là. Puis, nécessairement, il y a des oméga-3 là-dedans.
Dans le poisson.
Puis, ça va pas nuire de n'avoir. Après ça, c'est l'idée de supplémentation. Est-ce que ça a un effet réel ou pas? Dans le cas des oméga-3, ça semble pas être le cas.
Puis, en termes d'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres pistes qui ont été recherchés, qui peuvent permettre de lutter contre la perte de mémoire ou le développement de maladies d'Alzheimer?
Bien, il y a plusieurs personnes qui ont regardé après ça au niveau des vitamines. Donc, par exemple, la vitamine D. Donc, ils ont remarqué qu'une carence dans le sang de vitamine D augmente de 3 fois les chances de développer la maladie d'Alzheimer. Mais...
Ça, c'est quand même considérable.
Oui, mais on ne sait pas encore si... est-ce qu'on, si on fait une supplémentation en vitamine D, est-ce que ça va avoir un impact réel sur la survenue de la maladie d'Alzheimer? Donc, on sait que il en manque, puis quand il en manque, ça peut développer. Ça ne veut pas nécessairement dire que, en théorie, ça devrait marcher, mais encore une fois, ça reste à être prouvé.
Mmh. Puis est-ce que c'est le même principe, mettons, avec la vitamine D qu'avec l'oméga-3, de dire juste dans... Si tu sors dehors, puis tu prends du soleil, puis tu prends de la vitamine D, mettons, est-ce que celle-là, elle va régler ton problème de carence versus la supplémentation, mettons?
Exact. Donc, si on a une bonne alimentation diversifiée, équilibrée, qui ressemble au régime MIND, habituellement, tu as tout ce qu'il faut dans ton alimentation, puis tu n'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour avoir des saines habitudes alimentaires. Donc, mais après ça, c'est quand il y a des carences. Comme pour la vitamine A, si il y a une carence, le fait de rajouter des suppléments de vitamine A pourrait aider diminuer les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Mais mm-hmm. si tu n'as pas de carence en vitamine A, mais tu n'auras pas besoin de supplémentation.
Ouais.
Puis il faut faire attention avec la vitamine A parce que ça s'accumule. Puis si on en prend trop, là, ça peut développer des problèmes d'ostéoporose, de la fragilité. Donc, il faut faire hyper attention. Il faut consulter, puis il faut demander au médecin. On ne se met pas là-dessus. Pas parce que c'est en vente libre que ça ne peut pas être dangereux. Il
ouais.
faut tout le temps faire attention là, quand on commence à jouer avec ça, puis dire, moi, je vais faire mon régime, là. Me soigner.
C'est ça. Moi, je vais ralentir l'Alzheimer. Je ne l'aurai pas. Adrien Gagnon va m'aider à ralentir mon Alzheimer. Puis, où est-ce que... Quelles sont les dernières découvertes les plus prometteuses là, par rapport à ça, par rapport à l'Alzheimer? Où est-ce qu'en est la science, t'sais, vraiment en termes de cutting edge là, de science par rapport à ça?
OK. Donc, ça fait pas longtemps qu'il n'y a rien sorti en termes de médicaments de la maladie d'Alzheimer. Ça remonte au début des années 2000.
Ah ouais.
Et Bixa, donc la mémantine, il avait sorti ça, puis ça a certains effets positifs, une certaine période de temps au début de la maladie. Mais depuis, il n'y a rien qui est sorti. Puis ça, c'est pas parce qu'on chompe puis on fait rien dans le labo. Ouais. Là. Il y a énormément de recherches qui se fait. C'est juste que pour l'instant, il n'y a rien qui a abouti pour plusieurs raisons. Mais ce qui est beaucoup étudié, ce qui est beaucoup en avant-scène, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse amyloïde bêta. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, c'est une protéine qui s'accumule dans le cerveau, qui s'agrège dans le cerveau, qui forme des plaques, les plaques amyloïdes. Puis, quand il est sous forme soluble, donc avant de former les plaques, donc il est sous forme soluble, puis il serait neurotoxique. Donc, il créerait des pertes synaptiques, puis etc. Puis, c'est intéressant parce que c'est une pathologie, la pathologie A-bêta, qui arrive très tôt dans la maladie d'Alzheimer. Donc, avant même les problèmes de mémoire, les troubles cognitifs légers, on voit cette augmentation-là de la bêta soluble. Okay?
Mm-hmm.
Donc, on s'est dit, si on joue là-dessus, ben, on va pouvoir réussir à retarder...
Tout le reste.
T'sais. Donc, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi là-dedans. Puis, pour le moment, il n'y a rien qui a porté fruit. Il n'y a rien qui est arrivé, qui a été approuvé, par exemple, par la FDA, qui est arrivé sur le marché. Là, il y en a un, pour l'instant, qui s'appelle aducanumab. Donc, ça vient... C'est de l'immunothérapie à bêta. Donc, tu mets des anticorps contre la myéloïde bêta pour empêcher qu'elle ait son effet neurotoxique. Puis, là, on attend la réponse de la FDA, donc Food and Drug Administration, mm-hmm. pour savoir si, oui ou non, ça va être approuvé. Ça devrait arriver au courant de 2021, mais il y a pas mal de controverses encore par rapport à ça, parce que c'est basé sur plusieurs études, des essais cliniques, puis un essai clinique n'avait pas rien donné, mais là, après ça, ils sont replongés dans les données, puis en regardant plus attentivement, en regardant... parce que des fois, dans les essais cliniques, il faut réajuster les doses, puis tout. Puis là, ils ont dit, ah, bien, regardez, on prend ces personnes-là qui ont eu certaines doses pendant un certain temps, puis tout, bien là, ça semble fonctionner. Donc, c'est comme deux espèces de rapports qui vont pas dans le même sens. Puis là, les experts au niveau de la FDA, ben là, il faut qu'ils évaluent.
C'est contradictoire, c'est sûr que c'est.
Quelle histoire qu'on croit, puis jusqu'à quel point bénéfice-risque. Puis s'ils donnent l'OK, ben c'est qu'il va avoir dit, bon, ben, il y a plus de bénéfices que de risques, donc ça risque d'arriver sur le marché. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça mm-hmm. ça soit miraculeux et wow, que tu guérisses la maladie mm-hmm. d'Alzheimer. Là.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait quand on apprend que soit on commence à développer la maladie d'Alzheimer ou un proche? C'est quoi qui est recommandé finalement, t'sais, mettons, pour peut-être freiner le plus possible le développement de ça? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire ou c'est faut apprendre à vivre avec?
Bien, premièrement, il faut aller chercher de l'aide. Donc, il faut en parler. Faut pas avoir peur. Faut pas s'isoler par rapport à ça. Donc, faut pouvoir passer tous les examens qu'il faut, parce que des fois, ça peut être confondu avec d'autres choses. Soit c'est confondu avec la dépression. Parce que quand on regarde les symptômes, il y a beaucoup de symptômes qu'on voit chez les personnes dépressives, tu sais, des problèmes de mémoire, d'attention, des problèmes d'abstraction, planification, apathie. Donc, ça rentrecoupe beaucoup des symptômes qu'on voit en dépression. Puis après ça, où ça peut être mélangé avec une démence vasculaire. Mm-hmm. Donc, il faut passer différents tests pour voir est-ce que c'est vraiment ou pas la maladie d'Alzheimer.
Parce que si c'est, par exemple, une démence vasculaire, est-ce que ça, c'est traitable ou pas vraiment?
Non, parce qu'une fois que le caillot s'est fait, il est trop tard. Là. Après ça, on peut donner des choses pour venir désépaissir le sang, pour empêcher qu'il y ait des formations de caillots puis tout ça. Ouais. Mais une fois que c'est arrivé où un vaisseau s'ouvre, ben il s'est ouvert. Après, il faut juste laisser le corps le temps de dealer avec.
OK, OK, OK.
Puis, quand est-ce que, mettons en moyenne, j'imagine que ça varie vraiment des cas, là, mais ma question est en deux parties. Quand est-ce que ça peut arriver, mettons, des signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer, puis comment on les reconnaît?
OK. Donc, avant, il y a plusieurs signes avant qu'on soit atteint à proprement dit de la maladie d'Alzheimer. Donc,
parce que j'imagine que de la poignée d'avance, c'est tout le temps mieux.
Oui, ouais. C'est ça. Puis il y a beaucoup de recherches qui se font aussi pour développer des biomarqueurs précoces de la maladie d'Alzheimer. Donc, avant même d'avoir la maladie d'Alzheimer, juste quand on commence à avoir des pertes de mémoire, le détecter le plus tôt possible pour agir le plus tôt possible. Même si on n'a pas de médicaments pour le moment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant d'avoir des biomarqueurs, parce que ça permet de jouer sur les habitudes de vie. Donc, tu sais, si on t'apprend qu'il y a des chances, plus de chances que tu développes la maladie d'Alzheimer, mm-hmm. Les gens, ils risquent de changer leurs habitudes de vie. Ouais. Là, ils vont prendre des meilleures habitudes de vie, ils vont faire plus de sport, ils vont essayer de faire plus attention à se garder intellectuellement actif. Mm-hmm. Donc, diminuer l'hypertension aussi. Mm-hmm. Si la personne est obèse, faire plus de sport. Donc, il y a des choses à faire, puis que c'est pas négligeable. Comme je disais, c'est 40% qui peut être éliminé. Donc, il y a quand même beaucoup à faire. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la
En fait, c'est vers quand ça peut arriver,
oui,
puis quels sont les signes avant-coureurs.
C'est ça. Donc, puis après ça, donc, pour les signes avant-coureurs, donc ça arrive avant la maladie, donc il y a les troubles subjectifs. Donc, on pose la question, est-ce que ça vous dérange dans votre quotidien? Si la personne dit oui, mais le médecin va faire plus attention.
Mais mettons, comment qu'on fait pour se rendre jusqu'à ce qu'un médecin nous pose cette question-là? Tu sais, mettons, moi, je me dis, là, tu sais... Je suis chez nous, là, puis là, comment est-ce que je me rends compte que j'ai besoin d'aller me faire poser cette question-là par un médecin, mettons, là?
Ouais.
C'est parce que quand t'es dans ta vie, puis t'en parlais tout à l'heure de comment le cerveau trouve des façons d'éviter, là, tu sais, fait qu'à la place, mettons, de dire le mot table, j'utilise planche de bois, là. C'est sûr que c'est amené, je commence à référer à une table en disant planche de bois, peut-être que je vais le savoir, là. Mais mettons, tu sais, que intuitivement, je fais juste changer certains mots que j'oublie puis que je continue ma vie, je m'en rends même pas moi-même compte là, tu sais. Ouais. Comment qu'on fait pour se rendre jusqu'à ce qu'un médecin nous demande est-ce que ça vous nuit au quotidien, tu sais.
Ouais. Donc après ça, c'est différentes personnes, tu sais, il y en a qui font plus attention, qui sont plus préoccupés, donc dès qu'il y a un petit quelque chose, ils vont aller voir le médecin, donc peut-être que ça peut être détecté plus tôt, mais habituellement, les gens, quand ils vont consulter, ils sont rendus avec des troubles cognitifs légers, donc ça, c'est la phase prodromique de la maladie d'Alzheimer, donc avant, puis c'est pas tout le monde qui a des troubles cognitifs légers qui vont progresser vers la maladie d'Alzheimer, mais il y en a certains là-dedans qui vont convertir puis devenir Alzheimer. Donc, ceux qui sont à ce stade-là, habituellement, ce qu'on voit là, comme symptômes, le plus souvent, c'est des problèmes à se souvenir de certains mots, de certains noms, des problèmes à faire des tâches qui sont plus complexes au travail. Donc ça, c'est des signes qu'il y a peut-être quelque chose, ou réussir à bien s'orienter dans des endroits qui ne sont pas familiers nécessairement. La personne va être encore capable de s'orienter chez elle ou dans des places qu'elle connaît bien, mais tu sais, comme arriver dans un nouvel aéroport, là, c'est très challengeant pour la personne, puis là, elle peut avoir des problèmes à s'orienter. Mm-hmm. Donc, c'est encore subtil, tu sais. Puis, c'est pas objectif, mais il peut avoir. Puis là, après ça, il peut avoir des tests cognitifs qu'on appelle qui peuvent être passés pour essayer de voir est-ce que oui ou non, il y a de quoi s'inquiéter ou pas.
Puis, est-ce que plus souvent qu'autrement, c'est les personnes eux-mêmes qui réalisent le problème ou si c'est les proches et l'entourage qui font « il y a quelque chose qui est bizarre avec Bob ».
il y a les deux. Donc, des fois, c'est rendu au trouble cognitif léger, des fois, c'est la personne, mais bien souvent, ça va être des personnes de l'entourage. Je veux dire, il y a peut-être quelque chose. Là. Parce que, tu sais, on est tous de même. Hein. On veut nier qu'on a des problèmes. Ah, non, c'est pas grave. Non, c'est normal que je ne me souviens pas ça. Je suis fatigué. Ouais. Hein. Donc, mais, parce qu'on est trop dedans. C'est nous. Ça fait que des fois, d'avoir un regard extérieur d'un proche qui nous voit assez régulièrement, lui, il peut des fois mieux détecter que nous que. Il y a peut-être quelque chose. Là. Il me semble que c'est plus que des pertes normales de mémoire avec l'âge.
Y a-t-il des actions typiques? Y a-t-il souvent des choses qui reviennent? De comme j'ai remarqué tel comportement chez mes parents, ma mère a rangé les fourchettes où est-ce qu'elle met les cuillères d'habitude ou des enfants. Est-ce qu'il y a des. Justement, des genres de signes typiques qu'on voit ou qui reviennent souvent?
Bien, au niveau des troubles cognitifs légers, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça qui rend la chose difficile. Là. C'est parce que c'est subtil. Donc, il faut vraiment faire attention, être très attentif. Puis c'est tout le temps par rapport à l'état d'avant. Donc, si la personne ne retient pas les noms d'acteurs parce que elle n'en a rien à faire des noms d'acteurs. Ouais. Là, tu lui poses une question. Tu te souviens-tu, lui, qui a joué dans tel film? Non. Mais il n'y a rien d'anormal là-dedans. Elle ne se souvient jamais des noms d'acteurs. Mais si c'est quelqu'un qui suit les films, puis les acteurs, les revues, puis tout ça, là, il ne se souvient pas d'un nom d'acteur. Mais là, il y a été quelque chose.
C'est ça, c'est vraiment unique aux personnes. T'sais, si toi, tu oublies ta clé, je ne vais pas faire genre, Chris Dom, t'es mêlé. T'sais. Moi, si j'oublie ma clé, plusieurs fois, ça se peut que tu fasses genre.
T'as laissé le four allumé l'autre jour, je me suis inquiété.
Mais
c'est pas normal qu'il fasse ça. Après moi, c'est l'examen précoce.
Je fais jamais ça. Ça m'arrive jamais, tu sais. Ça dépend vraiment de la personne, dans le fond. Ouais. Là.
Ben oui, exact. C'est pour ça c'est pas. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Parce que c'est pas comme. une action égale, c'est en fonction de la personne, de son vécu, de ses expériences personnelles. Mais après ça, il y a des tests standardisés, là. Donc, il y en a deux, par exemple, comme, qui s'appelle le MMSE, donc Mini Mental State Examination, puis le MOCA, donc Montreal Cognitive Assessment, je pense. Puis,
c'est-tu en ligne, ça? Peux-tu avoir accès à ça
si vous googlez, vous allez voir le test, mais je ne vous conseille pas d'aller le voir avant, là, parce que là, ouais. c'est tout le temps les mêmes questions, puis c'est standardisé. Donc, c'est sur 30, puis la personne pose les questions. Puis, il faut que ça soit fait par un professionnel, parce qu'il y a une manière de poser les questions, de faire, de temps, puis tout ça. Donc, ça peut finir par créer un biais, parce que si tu l'étudies
ouais,
avant
d'y aller... Ouais, c'est pas un test, là. Non. C'est pas un examen d'école.
Exact, exact. Ouais, donc, puis c'est ça, ils vont évaluer l'orientation dans l'espace, le calcul mental, la mémoire, c'est ce genre de choses-là qu'ils vont évaluer, puis ils vont arriver avec un score. Puis si t'es dans un certain range, bien là, tu vas être plus comme cognitif léger. Puis si après un certain score, bien là, tu vas être tombé dans le début d'une maladie d'Alzheimer. Hmm.
Puis le monde qui nous écoute, là, ils ont majoritairement entre 18 et 34. Là. est-ce que ça peut arriver, jeune comme ça? Puis ben, j'imagine que le monde va plus être à l'affût pour leurs parents. Là, est-ce que ça peut arriver, jeune comme ça?
Non, c'est très rare. L'école est plus tôt. Il y a tout le temps des exceptions. Il ouais. y en a dans la trentaine, là, mais c'est extrêmement rare. Là. Puis souvent, c'est des cas familiales. Donc, ça, c'est héréditaire. Il y a une mutation tantôt, ouais. dans un gène. Puis là, ça peut se développer plus tôt. Mais c'est très rare. On parle de... C'est 1% de la population à partir de 65 ans. Puis dans la tranche 85-89 ans, mais là, c'est rendu 20%. Mm. Donc, à partir de 85 ans, le risque double à chaque 5 ans. Okay. Donc, c'est vraiment associé avec l'âge. Puis on le sait que l'âge, c'est le facteur de risque numéro 1 de loin par rapport ouais. à toutes les autres risques. Mais on ne comprend pas encore, on n'est pas encore capable de faire le lien pourquoi l'âge finit par créer la neurodégénérescence qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson.
Ouais.
Il y a une couple de semaines, tu as sûrement vu ça, il y avait une femme, justement, tout le monde en parle, qui était atteinte d'Alzheimer précoce, puis racontait son histoire. Elle devait être dans la quarantaine, dans la cinquantaine, là, mère de famille, là, enfant encore à la maison.
C'était quoi son nom?
Non? Je me souviens plus de son nom.
Elle avait demandé l'aide médicale à mourir.
C'est ça. C'était super triste, c'était super touchant là, de voir quelqu'un d'aussi jeune. Puis elle était encore... super articulée puis super bonne pour comme expliquer son problème, mais tu sais, elle le sait, puis les médecins lui ont dit d'ici une couple d'années ça va être terminé sans doute là, tu sais, puis alors c'est quelque chose
de
pareil.
J'ai pas vu l'émission là, mais j'imagine que c'est un cas là, justement de
très rare
de maladie d'Alzheimer familiale là, avec des mutations dans certains gènes.
Puis est-ce que quelqu'un qui est vraiment avancé parce que, tu sais, quelqu'un qui est vraiment avancé dans la maladie d'Alzheimer, qui reconnaît plus ses proches, qui reconnaît plus les gens qui ont parcouru sa vie, ça peut être vraiment difficile pour les proches d'essayer d'être là pour cette personne-là. Tu sais, un enfant qui fait peur à son parent parce qu'il le reconnaît plus, là, tu sais, c'est vraiment challengeant. Mais est-ce que les gens qui sont comme ça avancés ont malgré tout besoin de leurs proches avec eux, ou ça fait plus aucune différence pour eux?
Non, c'est hyper important. Là.
Même s'ils ne reconnaissent plus, même s'ils ne veulent pas qu'ils soient là,
c'est important pour pas qu'ils se sentent isolés socialement, ce qui reste de leur mémoire, de le garder actif en parlant, en faisant des interactions sociales. Donc, c'est hyper important. Même, tu sais, des fois, on y va, puis elle ne nous reconnaît plus, c'est quoi le point d'y aller, puis ouais. tout ça. Mais c'est hyper important pour la personne. La personne continue à avoir des émotions, puis même si elle ne se souvient pas de tout, la présence d'un être cher autour d'elle va l'aider à peut-être progresser moins vite.
Mm-hmm. Puis il y a des histoires qu'on entend, tu sais, quelqu'un qui est sur le point de décéder, que ça fait des années qu'il ne reconnaît plus son entourage, qui au moment de quitter, peut-être c'est des histoires ésotériques qui sont transformées, là, mais qui, au moment de quitter, a comme un instant de lucidité dans son dans sa tête, là, tu sais, puis moi, j'ai entendu plusieurs fois ce genre d'histoire-là. C'est quelque chose qui est réel? C'est quelque chose qui arrive pour vrai?
Oui, ça arrive surtout au début de la maladie, parce qu'on s'imagine tout le temps la maladie comme quelque chose de progressif.
De linéaire.
Là, dans un temps linéaire, mais c'est pas le cas, là. Mm-hmm. Il y a des moments de lucidité. Des fois, il y a des grands moments comme une journée, il n'y a rien à faire, elle se souvient de rien. Puis là, la journée d'après, elle a un souvenir ou une pensée. Puis là, t'es là, ah, moi, tu sais, ça surprend la proche. T'es, ah ouais, tu te souviens de ça. Mm-hmm. Alors que, donc, c'est. Oui, il y a une continuité, il y a une progression, mais dans cette progression-là, il y a des up and down. Mm-hmm. Puis ça, on le voit plus. Après ça, des moments de lucidité, ils peuvent en avoir aussi plus tard, mais ils vont devenir de moins en moins fréquents.
Il y a certains cas où est-ce que. Une fois qu'une personne arrive au point que. Qui est plus du tout autonome, puis qui ne reconnaît plus ses proches, puis tu sais, vraiment, vraiment avancé. Est-ce qu'il y a des cas où est-ce que ça dure quand même assez longtemps, cette période-là? Hein?
Ça peut être très long. Donc, souvent, les cas les plus agressifs, donc les cas familiales, ils arrivent plus tôt, puis ils sont plus agressifs. Quand ça arrive plus tard, bien, ça va se développer sur plus long terme. Puis souvent, la personne va décéder avant de développer des symptômes très, très importants, graves de la maladie. Donc, parce que tout notre système fonctionne un peu quand on vieillit, au ralenti. Donc, le métabolisme du cerveau, c'est la même chose. Les choses, ça fait plus lentement dans le temps. Donc, plus tard, on l'a attrape, puis souvent, moins c'est une forme sévère, agressive.
Puis, c'est probablement pas ton domaine, là, tu sais, puis c'est des questions super difficiles à répondre, mais mettons, selon toi, où est-ce qu'on en est au Québec par rapport, mettons, à l'aide médicale à mourir? Est-ce que c'est adapté à cette maladie-là, ou...
C'est une bonne question. Aide à mourir, je suis pas renseigné là-dessus. Je sais pas où qu'on en est ici au Québec, là, jusqu'à quel point on en parle ou pas, là, surtout pour la maladie d'Alzheimer. C'est pas, c'est pas un sujet qui est sur la table pour le moment, à ma connaissance.
C'est fascinant, j'ai plein de questions. La mémoire musculaire, fait que mettons quelqu'un qui a été un pianiste... un grand pianiste là, dans sa vie, là, qui là, oublie le fait qu'il était un pianiste, qui sait jouer du piano, mettons, puis là, tu le mets devant un piano, puis qui est capable de jouer sans trop savoir pourquoi. C'est lié à quoi? Pourquoi est-ce que ce type de mémoire-là est capable de rester, mettons? Puis est-ce que c'est vrai ou c'est juste romantisé de cette idée-là? Là,
Non, c'est... plus que quelque chose t'influence puis important dans ta vie, puis plus que ça va rester dans
même
longtemps.
Même si tu te rappelles plus que tu es capable d'en jouer,
exact.
Tu t'assois puis tu es capable.
Ça devient, tu sais, le piano, ça devient un automatisme là, pour ceux qui en ont joué longtemps puis qui sont des grands virtuoses puis tout. Là, c'est comme faire du basic. Tu te réfléchis pas que tu fais du basic. Tu es capable de parler puis regarder plein de choses en même temps que tu pédales.
Même si tu te rappelles pas que tu l'as appris, tu es capable de faire du vélo.
Exact. Là. Donc ça, c'est quelqu'un qui a joué longtemps puis qui est très bon, c'est une mémoire qui va y rester très, très, très longtemps. Ce qui part en premier, c'est la mémoire à court terme. Donc, tous les événements qui se passent récemment, c'est ça qui est plus dur au début. Donc, l'actualité. Tout à l'heure, on disait les signes avant-coureurs. Là, donc, un trouble cognitif léger, c'était ce que je vous ai nommé. Mais après ça, au début, quand la personne commence à être proprement dit... Alzheimer, il va avoir des problèmes de mémoire à court terme, donc de souvenir des faits de l'actualité ou de faits personnels qui sont arrivés récemment.
Okay.
Donc ça, on le voit au début. Tout à l'heure, on disait qu'ils ont de la misère à se retrouver dans des endroits non familiers. Ouais. Là, ils vont avoir de la misère à se retrouver dans des endroits qui sont plus familiers. Donc une route qu'ils prenaient souvent, par exemple, pour aller voir sa fille, bien ça a été plus compliqué. Donc tu sais, on voit que c'est une aggravation de ces symptômes-là ou les tâches complexes du quotidien, tu sais, faire ses impôts...
Donc, une personne pourrait raconter ce qui s'est passé en 1981, mais pas savoir ce qu'elle a fait hier, mettons.
Exactement. Mm. Ce qui est là depuis longtemps, surtout des événements marquants, là, comme la personne pourrait se souvenir de petits détails très importants, en tout cas pour lui, pendant son mariage, puis... Mm-hmm. pas se souvenir qu'il est allé chercher une pinte de lait en avant-midi.
Parce que c'est des zones différentes du cerveau?
C'est les mêmes, mais quand c'est de la mémoire à long terme, là, c'est transféré dans le cortex, puis c'est gardé là, puis ça fait partie d'un network. Alors que quand c'est de la mémoire à court terme, tout se transforme pas de court terme à long terme. Il n'y a aucun intérêt à se souvenir qu'en 1987, à 13h30, tu es allé chercher une pinte de lait au dépanneur. Tu sais. À un moment donné, il faut que le cerveau fasse du tri dans ce qui est important et qu'il ne l'est pas. Donc, quand c'est assez important pour qu'il s'en souvienne et qu'il l'engrange dans le cortex, parce que ça a une valeur importante pour la personne. Puis le reste, ça part aux oubliettes.
Mettons qu'on a nos auditeurs qui veulent en apprendre plus sur le sujet, qui veulent suivre les recherches qui se font là-dessus. Y a-t-il des endroits sur la toile qu'on peut utiliser pour ça?
Bien, pour la maladie d'Alzheimer, il y a énormément de différents sites. Le site qui me vient en tête en premier, c'est la Société Alzheimer, ça c'est sûr. Vous pouvez avoir plein de renseignements super utiles sur si vous trouvez que quelqu'un dans votre entourage, votre père, votre mère, ou vous pensez que, donc les ressources à aller chercher, qui contacter, où faire les tests, où sont les cliniques de mémoire. Puis souvent, c'est Société Alzheimer, mais c'est souvent aussi Société Alzheimer et maladies apparentées. Donc, vous allez avoir des informations sur la maladie d'Alzheimer, mais vous allez pouvoir en trouver sur la démence vasculaire, frontotemporale, corps de Lewy, etc. Donc, vous avez une bonne base, c'est une bonne place où commencer. Puis après ça, les gens qui vont vous suivre dans le parcours vont pouvoir vous orienter vers les meilleures places pour voir comment tout ça progresse, puis qui voir, puis quand.
Y a-t-il quelque chose qu'en tant que scientifique, tu te dis ça serait vraiment pertinent que le public sache ça, tu sais, par rapport à la maladie d'Alzheimer ou par rapport à la mémoire ou au vieillissement, tu sais, que tu dis si la population était plus éduquée là-dessus, on pourrait éviter telle affaire, mettons, y a-t-il quelque chose qui te vient?
Bien, c'est tout le temps les mêmes conseils, puis c'est bon pour n'importe quelle maladie neurodégénérative, puis même at large, c'est les saines habitudes de vie.
Ça revient toujours à ça.
Oui, c'est fou. Si tu mènes une bonne vie, puis tu fais attention à ce que tu manges, l'activité, puis le cerveau, c'est gagnant dans tous les cas. Puis ça a l'air facile, puis comment dire,
mais c'est la chose la plus dure au monde.
C'est dur, c'est hyper dur. C'est très facile à dire, mais très difficile à faire. Mm-hmm. C'est pour ça que on en parle encore. T'sais, tout le monde sait que l'hypertension, c'est pas bon. Mais pourquoi il y en a encore qui souffrent d'hypertension, qui ont du diabète, puis qui font de l'obésité? Tout le monde sait très bien que c'est pas bon d'être en surplus de poids. Tout le monde. Mm-hmm. Mais on est dans un pattern, on est dans nos vies. C'est difficile de faire les changements.
Mm-hmm. Mettons qu'on essaye de dresser la liste là, des piliers là, finalement bien manger, ça c'est sûr,
yes.
Faire de l'activité physique, dormir, réduire son stress, puis après ça qu'est-ce qu'on dirait quoi mettons?
Pas fumer,
les contacts
sociaux,
j'imagine que alcool, drogue, tout ça aussi
c'est ça. C'est un facteur de risque là, l'alcool, pas trop consommer d'alcool.
Donc, là, contacts sociaux, on l'a dit.
Ça fait un bon tour. Si t'es capable de checker ces boxes-là, là, tu risques d'avoir moins de problèmes dans ta vie en général.
Exact. Continue à être actif. Comme là, ce qu'on fait là interaction sociale par un plexiglas. Puis stimuler intellectuellement, poser des questions, rester curieux.
Si les gens qui nous écoutent sont rendus à avoir fait une heure et demie de conversation avec nous, ils peuvent checker la box rester actif mentalement.
Ils nous ont suivis du début à la fin. Là, ils peuvent dire bon, aujourd'hui, je suis resté actif.
Puis le best, c'est si on fait ça sur le tapis roulant, à courir.
Du gros deux pour un. Là.
Ah ouais, là, c'est parfait. Ça,
J'avais un prof à l'Université Laval. J'avais pris deux cours en philosophie. Tu sais, moi, j'étudie en musique, mais j'avais pris des cours. Puis le monsieur Thomas de Coninck, tu sais, il doit avoir 90 maintenant, mais il avait 80 à l'époque. Tu sais, puis il enseignait encore à l'université. J'ai jamais vu un érudit comme ça, tu sais. Puis une personne capable de citer, tu sais, une infinité de livres, de mémoires, tout ça. Il parlait 8 langues, il avait, tu sais, dont le grec ancien, tu sais. Puis c'était vraiment. Puis j'en revenais pas, puis je me dis, tu sais, probablement que cet homme-là avait pris sa retraite justement à 60, ou tu sais, puis avait arrêté de cultiver toujours la curiosité, de continuer de lire, il serait sûrement pas aussi allumé, ah non, aussi exact, intelligent, exact. Aussi sharp.
On les appelle les super aînés. Ouais. Donc, il y a cette catégorie de gens-là, puis on les étudie aussi parce qu'ils sont fascinants. Ouais. Pourquoi certaines personnes ont l'air immunisées à tout? Là. Il y a rien qui leur colle, puis ils continuent...
Aucun ralentissement cognitif, là, rien.
Ouais. Ben, des fois, il peut en avoir un petit peu, mais quand tu es rendu à 100 ans puis tu es capable de raisonner comme quelqu'un de 50 ou 60 ans, c'est fort.
Oui.
Donc, puis il y a des études qui ont montré que ces super aînés-là, mais il y avait un cortex plus épais.
Mm.
Donc, puis puis il diminuait... parce que quand on a des pertes synaptiques, il y a des pertes de matière grise qui se fait. Donc, okay. Donc, il y a quand même une diminution de volume.
Puis de la masse aussi du cerveau?
La masse de départ était plus importante, puis okay. Il diminuait moins rapidement dans le temps que ceux qui étaient normal, pas super aînés.
Pas des donc, super aînés.
C'est l'idée de réserve cognitive, de rester actif, de pour favoriser les connexions entre les neurones. Puis ça, il n'y a pas mieux parce que ça part de même. Ce qui corrèle le mieux avec les déficits de mémoire, c'est les pertes de connexion entre les neurones. Donc, si on réussit à conserver nos connexions, on peut prolonger, empêcher la progression de la maladie d'Alzheimer.
Mm-hmm.
Même le bilinguisme a été montré comme étant protecteur pour la maladie d'Alzheimer.
Parce que ça crée plus de connexion dans ton cerveau, justement.
Exactement. Donc, c'est sûr que ça va se faire dans les zones impliquées dans la mémoire, la parole, comme l'aire de Wernicke, l'aire de Broca. Donc, on peut comprendre là, qu'il se passe quelque chose, mais ça va plus loin que ça. Ça atteint d'autres zones sur les fonctions exécutives. Puis là aussi, il se crée dans des qui sont importants pour la réflexion, la planification, l'abstraction. Parler, c'est abstrait. Donc, là aussi, il va y avoir aussi plus de connexions qui vont se faire. Puis ça va ralentir la progression de 4 à 7 ans.
Mm.
Donc, tu sais, quand on parlait que l'impact que ça a juste de ralentir de 2 ans...
Si, là, c'est si, 5 ans, si 4 à 5.
Ouais, si wow. tu ralentis ça de 4 à 7 ans, t'es en business, là.
Mais oui. Puis il y avait un autre article aussi que j'avais lu une fois, puis c'était justement, il essayait de trouver... puis encore une fois, on va revenir aux mêmes choses, mais tu sais, là, c'était surtout par rapport à l'activité physique puis la marche, puis tu sais, c'était... j'en ai déjà parlé sur le podcast, là, mais c'était c'est quoi le dénominateur commun entre les gens qui sont centenaires, là, tu sais, qui vivent 100 ans et plus. Puis tu sais, dans tous les cas, c'était des gens qui, quotidiennement dans leur vie, puis ça, depuis longtemps, marchent beaucoup, là, tu sais.
Ouais. Bouger. Mm-hmm. C'est hyper important. Ma femme a travaillé au musée Armand Frappier, puis ils ont une exposition qui s'appelle Bouger. Puis okay. Ils montrent à quel point c'est important de bouger. Puis ça s'adresse à tout le monde. Puis c'est pas le faire rendu à 70 ans.
C'est le faire tout le temps.
Là, ouais. J'ai peut-être des troubles cognitifs légers ou la maladie d'Alzheimer, je vais me mettre à pédaler. Non. C'est dès midlife, là,
ouais.
en milieu de vie, où tu sais. À un moment donné, il y a un choix qui se fait. Là.
Ouais.
Moi, je suis pas mal midlife.
Tu
commences à bouger, il n'y a pas le choix.
Il y a une décision à prendre ici. Soit que tu y vas vers la pente descendante, puis ouais. tu restes de moins en moins actif, puis tu t'écrases devant la télé le soir, puis tu fais rien. Puis des fois, ça fait du bien, tu sais, mais ouais. Si tu fais juste ça, là, il y a un problème. Là, tu t'en vas vers une pente déclinante. Ou tu dis, regarde, je vais faire attention à moi, je mets toutes les chances de mon côté, fait que je prends des actions concrètes, puis je vais emmener mon petit bateau le plus loin possible.
Tu sais, un an, c'est long, là. Imagine, ouais. Tu te rajoutes 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans d'être encore sharp.
D'être en santé.
C'est long, là. C'est long dans une vie, là.
Pis, exactement.
Pis non seulement c'est la durée de la vie, mais c'est la qualité de cette vie-là.
Ben oui,
tout à fait. À quoi bon rallonger quelque chose quand t'es en perte de fonction complète. Ouais. Mm-hmm. Mais si c'est pour avoir une bonne qualité de vie, 4, 5, 10 ans de plus, je pense que ça vaut le coup.
C'est énorme.
Ça vaut vraiment le coup. Mais, ouais. mais même, forme, on le dit.
Même quand c'est ça, même quand l'activité physique, j'aime pas ça, ou tu sais ça, ou les légumes, j'aime pas ça, ça vaut la peine de faire le petit effort pour ce que tu vas gagner à la fin.
Trouve une façon d'aimer le brocoli. Trouve une façon de le cuisiner. Ouais.
Oui, mais souvent, c'est une question de le cuisiner. Moi, j'ai jamais été fan de brocoli, mais là, j'ai trouvé des recettes où je me régale. Mais oui, je me régale à manger du brocoli.
Je vais le dire.
Je vais dire l'imprononçable.
J'aime le brocoli.
C'est...
j'ai osé le dire.
Merci infiniment.
Merci à vous. C'était vraiment super intéressant.
C'était une super conversation. Je suis persuadé que tout le monde va avoir adoré ça.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast. Et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe.
Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon, où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, et le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.